Mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue dans votre rendez-vous de musique liturgique sur Radio Présence. Vous êtes ici chez vous sur Point d'Orgue. Je suis vraiment, vraiment très heureux de vous retrouver dans ces circonstances de joie, de Pâques, après avoir passé avec vous tout ce carême en musique, avec de la belle musique certes, mais une musique lourde de sens et qui forcément marque beaucoup. C'est une aventure musicale et qui est exigeante. Et là, on se retrouve dans la joie de Pâques, donc j'espère que vous avez passé une très belle fête de Pâques. Et alors, je vais vous proposer de partager un peu cette joie autour de la musique, parce que la musique aussi est capable d'être un sacré véhicule de joie, hein. Ça, on a vu qu'elle pouvait faire les choses bien du côté de la pénitence, même de la mort, mais du côté de la joie, je peux vous assurer qu'il y a des chose également extrêmement merveilleuse, et donc je vais vous partager quelques pépites. Deux pépites pour être précise. La première, il s'agit d'une pépite de Joseph Rheinberger. Alors Rheinberger, je vous en ai parlé il n'y a pas très très longtemps, donc on va rester avec ce compositeur génial du 19e siècle. Il a composé une œuvre qui est assez célèbre, hein, très, très chantée par les chorales, qui s'appelle Abendlied, qui est un passage assez important de l'évangile qu'on retrouve selon Saint Luc, où il y est dit, alors le texte, je vous en fais la traduction, c'est « Reste auprès de nous parce que le soir arrive et que le jour est terminé ». Est-ce que vous vous souvenez à quel moment de l'évangile c'est? Et si vous ne vous en souvenez pas, je vous donne la réponse magnanime. Il s'agit tout simplement du moment où sur la route d'Emmaüs, effectivement, on le reconnaît à la fraction du pain. Et là, tout d'un coup, on se dit, mais Seigneur, le soir est en train d'arriver, reste avec nous. Donc on est totalement dans la joie de la résurrection et en même temps dans une forme de sérénité parce que c'est une œuvre intime, hein. C'est une œuvre assez intime qui marque un moment intime de l'évangile. Alors on va faire un petit peu d'analyse musicale si vous le voulez bien. Déjà le morceau est en Fa majeur. Fa majeur c'est une tonalité que je trouve assez peu employée finalement mais qui est d'une grande douceur et en même temps qui est assez... elle n'est pas triomphale, hein, ça ne sera pas un ré majeur, mais ça sera quelque chose d'assez chaleureux et d'assez vivant. Et alors, on va commencer. Soyez très attentifs à ce premier accord de Fa majeur, il y a l'accord parfait tout de suite. Donc là aussi, il y a du sens, un accord parfait. Et sur le Bleib, rien que sur ça, vous allez avoir comme si les rayons du soleil du matin venaient caresser votre peau. Et en fait, je trouve que cette œuvre est construite de façon totalement cyclique. Je vais vous expliquer pourquoi, et notamment parce que dans le texte, il est fait référence au soir qui arrive et au jour qui se termine. Donc vous avez ces premiers rayons de soleil qui viennent vous caresser la peau. Vous savez, comme quand vous regardez le premier rayon qui vous va directement dans l'œil, qui vous éblouit un tout petit peu, mais qui en même temps est très doux. C'est ça, ce premier accord-là. Ensuite, vous avez donc un cœur qui se développe, donc c'est un cœur à six voix, donc quelque chose d'assez charnu, assez développé, et vous avez plusieurs passages où vous avez les voix qui vont parler seules et qui vont se répondre, toujours sur ce texte extrêmement court. C'est là où on se dit qu'il y a quelque chose de très insistant, reste auprès de nous finalement, vraiment Seigneur ne pars pas, tu es revenu d'entre les morts, reste avec nous. Et donc il y a cette espèce de connivence presque qui se crée entre les chanteurs qui demandent au Christ de rester et puis le Christ qui bien entendu est là et doit manifester sa résurrection également à d'autres personnes, hein. D'autres aussi ont le droit d'en profiter et donc c'est tout le sens du texte est ici et je voudrais beaucoup insister sur la fin. La fin, je vous le disais, cette œuvre est assez cyclique. Le premier accord et le dernier accord de l'œuvre sont les mêmes. C'est l'accord parfait de Fa majeur. Et en fait, on a une ambiance très vespérale à la fin, sur les dernières paroles de ce chant. Vous avez une gamme descendante, donc qui est notamment chantée par les sopranes, la voix la plus aiguë, Fa, Mi, Ré, Do, Si, La, Sol, Fa. Et en fait, vous avez comme si c'était le soleil qui faisait sa course et qui arrivait au soir. Et vous avez cette espèce de tombée du jour, incroyable, et avec cette idée de recommencement, puisque le début et la fin, c'est le même accord. Donc il y a cette espèce de joie de la résurrection dans une journée entière. C'est ça qui est extraordinaire dans cette œuvre. Alors je vous propose de l'écouter. Il s'agit, je vous en parle un tout petit peu, d'une version que j'aime beaucoup, et pour cause, c'est celle que j'ai dirigée il y a 2 ans à la création de la Scola de Saint-Sernin. Alors je vous préviens tout de suite, elle comporte quelques petits défauts. C'était les débuts du chœur, donc je vous demande d'être un tout petit peu, de baisser un tout petit peu vos exigences. Et également, je tiens à vous le dire, nous avions une partition qui avait une faute. Donc à un moment, il y a une faute. Donc si vous avez l'oreille très aiguisée, vous pourrez peut-être l'entendre. Mais voilà, en tout cas, ça vient du fond du chœur. Et elle se manifeste aujourd'hui dans ce temps pascal. Donc j'espère que vous allez pouvoir retrouver tous ces petits éléments de langage que je vous donne pour profiter de ce morceau absolument incroyable de Reinberger qu'il a composé quand même quand il avait 15 ans. Et un chef-d'œuvre en appelle à un autre. Donc après ces accords sublimes et cette musique absolument incroyable de Reinberger, je vous propose d'aller découvrir une autre pièce du répertoire qui est absolument extraordinaire. Enfin, je dis découvrir, mais si ça se trouve, vous la connaissez déjà. C'est une pièce fantastique de César Franck. César Franck, vous savez, je vous en avais déjà parlé, notamment un peu l'an dernier, 2022, pour son bicentenaire. Compositeur... on va dire français, bien qu'il soit né en Belgique et il a été très influencé par la musique germanique, mais c'est quand même un organiste parisien qui a eu une carrière fantastique et qui a fait toute sa carrière en France, donc on le considère un peu français, et d'ailleurs lui-même finissait par se considérer comme tel. Donc César Franck, immense compositeur d'orgue, et qui là va nous proposer une page, là aussi extraordinaire, enfin une page. plusieurs, parce que l'œuvre est assez longue. C'est pour ça que vous n'aurez droit qu'à deux extraits aujourd'hui, mais franchement, quels extraits! Je suis très heureux de les partager avec vous. Donc, il s'agit de son Dextera Domini. Alors, qu'est-ce qu'il y a derrière ces deux mots? Je vais vous dire le texte latin, puis ensuite la traduction. Dextera Domini fecit virtutem, dextera Domini exaltavit me. Non moriar, sed vivam et narrabo opera Domini. Ce qui veut dire, la droite du Seigneur a déployé sa puissance, la droite du Seigneur m'a exalté. Je ne mourrai pas, mais je vivrai et je raconterai les œuvres du Seigneur. Alors ça, ce sont les versets 16 et 17. Du psaume 117. Et c'est quelque chose d'extraordinaire parce que ça reflète totalement l'esprit de Pâques. Et c'est pour ça qu'il y a une sorte d'ambivalence. Cette antienne était normalement chantée à l'offertoire de la messe du jeudi saint, au début du triduum de Pâques. Mais finalement, il a également été beaucoup proposé à l'offertoire du jour de Pâques. Et c'est dans cette optique-là, du jour de Pâques, que César Franck l'a écrit. L'a composé. Donc c'est une pièce qui initialement a été composée pour trois voix, contrebasse et orgue bien entendu, parce que César Franck ne renie pas quand même toute sa profession, et heureusement, la version que je vais vous présenter est un petit peu particulière, elle est à quatre voix, et là vous n'avez pas la contrebasse, vous avez l'orgue, mais bon, on reste tout à fait dans l'esprit de ce qu'a écrit César Franck. Alors, un petit peu d'analyse musicale, si vous le permettez. Tout simplement, ce début. Dextera Domini qui commence par les basses. Très intime. Très, très, très intime. Ça se demandait presque, mais pourquoi ne fait-il pas quelque chose d'éclatant? Mais attendez, ça va arriver. Deuxième petite partie, vous avez le pupitre alto et le pupitre ténor qui se mêlent. Vous allez voir dans un dialogue absolument merveilleux, en parlant de ces œuvres de Dieu, de cette droite de Dieu qui est extraordinaire. Et enfin, au bout de deux pages, le chœur dans son entier entonne à plein poumon Dextera Domini fecit virtutem. Donc ça, c'est extraordinaire. Vous avez cette espèce d'entrée qui met du temps à se mettre en place, comme si en fait on n'en revenait pas. On était un peu hébété de voir que le Christ était ressuscité. On n'y croit pas au début. C'est un petit peu mystérieux. Et puis finalement, on laisse éclater notre joie. Et en fait, c'est une œuvre très, très, très particulière parce que elle a énormément de contrastes. Vous avez sur la partition du FFF, ça veut dire fortissimo, très, très, très fort. Et vous avez de l'autre côté, pianissimo, des passages extrêmement doux. Vous avez également des passages mineurs, c'est-à-dire que on se dit mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'à un moment César Franck nous emmène vers quelque chose d'un petit peu plus tragique? Et en fait, moi je l'imagine comme cela, c'est-à-dire que on n'y croit pas. Il y a un petit côté saint Thomas, on se dit mais c'est pas possible, il est quand même mort. Et il y a ces petits passages là où on se dit qu'est-ce qui se passe? Mais finalement le triomphe est là. Non moriar, là vous allez voir, c'est là où vous avez le fortissimo extraordinaire, l'orgue qui joue à fond, et vous avez cette espèce de déploiement de la puissance musicale qui dit non, je ne mourrai pas, je vivrai, c'est extraordinaire, et vous avez cette espèce de descente, de la même manière que par exemple si vous prenez le deuxième choral de Franck, ou si vous regardez chez Gabriel Fauré et son cantique de Jean Racine, vous avez cette espèce de fin extrêmement intime, extraordinaire, où il est chanté Alléluia, et là, vous avez un dialogue qui se met en place avec l'orgue, et peu à peu, un piano s'installe, tout petit, un piano, la nuance, hein, tout petit, très, très peu de son, et vous avez juste les voix qui concluent ce chant, Alléluia, comme si on était déjà dans le ciel avec le Christ. Je vous laisse donc découvrir le Dextera Domini de César Franck, qui est là aussi interprété par la Scola de Saint-Sernin. Voilà, et c'est donc avec ces accords tout à fait éthérés que je vous laisse, avec toute cette légèreté qui nous fait entreapercevoir le ciel de la résurrection. J'espère que vous avez aimé ce voyage musical dans la joie de Pâques. Et maintenant, on va rentrer dans cette dynamique, Pascal. Et donc, je suis très heureux de pouvoir vous dire qu'on va continuer à aller dans l'exploration de ce type de répertoire-là, qui va être exubérant de joie et de très belles promesses. Voilà, mesdames et messieurs, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt pour un nouveau numéro de Point d'Orgue.